Alors, j'ai le grand privilège aujourd'hui de continuer en fait une série qu'on est en train de suivre. Alors, ce n'est pas tous les dimanches, mais de temps en temps, un ou une de nous prennent une personnage de Hébreux 11. C'est une longue liste des héros et des héroïnes de la foi. Alors voilà, j'ai choisi David. Et je me réjouis trop parce que j'aime beaucoup, beaucoup cet homme. Tu as cité deux psaumes hein, de David, Daniel, aujourd'hui, et moi, je vais encore citer d'autres. Mais voilà, ça va, vous êtes prêts pour un peu... Parce que c'est un personnage qu'on connaît bien, mais voilà, je vais vous faire une petite résumé à nouveau de cet homme-là. Ça va, tu peux lancer le... Oui, volontiers. Alors, tout d'un coup, j'ai un doute ce matin. Je dis, les héros de la foi ou héroïnes de la foi, je ne sais pas si c'est biblique ou bien. Je ne sais même plus si c'est quelque chose de biblique. Je vois Marie-Laurence qui dit oui. Alors, bon, ok, ouf. Parce que tout d'un coup, je dis, j'ai mis un titre, mais je ne sais même pas si c'est biblique, cette histoire. Bon, ouf, je suis soulagée. En tout cas... Je propose pour commencer qu'on retourne dans Hébreux 11 et on se remet un peu juste cette liste avant de plonger à nouveau dans l'histoire de David. Donc dans Hébreux 11, il redonne en fait cette définition de la foi. Mais en fait la foi, c'est ce qui nous caractérise, n'est-ce pas? On est là ce soir parce qu'on a la foi. Alors peut-être on se sent pas héros, grand héros et héroïne de la foi, on a des fois des doutes hein, sur nous-mêmes, on dit oh là là, ma foi est bien petite. Et Jésus dit, mais il faut une petite graine de moutarde, si déjà tu as la foi d'une graine de moutarde, bah déjà tu peux faire des grandes choses. Donc j'espère qu'aujourd'hui avec ces récits des héros comme David, ça ne va pas nous décourager mais plutôt ranimer en fait ou souffler sur les braises hein, de notre propre foi. Donc relisons dans Hébreux 11 verset 1, donc, alors la foi, hein, l'écrivain de l'Hébreu nous dit « Mettre sa foi en Dieu, c'est être sûr de ce qu'on en espère ». C'est être convaincu de la réalité de ce que l'on ne voit pas. Être sûr de ce que l'on espère, être convaincu de la réalité de ce que l'on ne voit pas. Après, il y a toute une longue liste de personnes. Abel, voilà pourquoi, c'était un grand homme de foi. Enoch, voilà pourquoi. Noé, voilà pourquoi. Abraham, Sarah, Isaac, Jacob. Et chaque fois, une petite explication. Hein. Après, il y avait Joseph, Moïse, le peuple d'Israël. Et à un moment donné, l'écrivain des Hébreux dit, que dirais-je encore ? Le temps me manque. J'aime bien hein, quand on vit pas. Le temps me manquerait pour parler d'eux. Et là, il fait encore une longue liste. De Gédéon, de Barak, Samson, Jephté, David. Voilà, on arrive. Et après, il continue. Donc, nous sommes des héritiers, des héritières de tous ces grands, grands personnages devant nous, n'est-ce pas? Ouais. Nous, on se tient sur les épaules de toutes ces grandes personnes qui ont eu cette foi et à notre suite, on continue d'avoir la foi dans notre Dieu, comme eux à l'époque. Allez, pour un peu de drama comme ça, allez, je vous lis un peu. Grâce à la foi, ils vainquirent des royaumes, pratiquèrent la justice, obtinrent ce que Dieu avait promis. Ils fermaient la gueule des lions, éteignirent des feux violents, échappèrent à la mort par l'épée. Ils reprirent des forces après la maladie. Ils se montrèrent redoutables à la guerre et repoussaient des armées étrangères. Des femmes virent leur mort ressuscitée. Et ça continue comme ça.
Alors, c'est un peu impressionnant. On dit, oh là là, moi dans ma petite vie de chrétienne ou chrétien aujourd'hui, ouais, je suis loin de fermer la gueule des lions. Mais... S'il y a un spectateur ou une spectatrice extérieure qui voit peut-être ce que nous menons au quotidien par notre foi en Dieu, ce n'est pas dit hein, que ce que nous menons de front tous les jours
ressemble pas à ça. C'est peut-être pas la gueule d'un vrai lion, mais c'est peut-être d'autres. Hein? Alors voilà, je laisse Dieu vous expliquer quels sont les grands faits que nous aussi nous faisons par cette foi en Dieu. Alors, allons vers David. Alors, quand on brainstorm comme ça sur un personnage de la Bible, David par exemple, je me disais, qu'est-ce que je sais de David, hein? Avant de me plonger dans les textes, je dis, alors, qu'est-ce que je sais de David? Et assez vite, le prochain slide s'il te plaît, il y a cette expression qui m'est venue à l'esprit, un homme selon le cœur de Dieu. Et en anglais, c'est même encore, ça va un peu plus loin, a man after God's own heart. Oh, wow. Oh là là, moi j'aimerais trop que ça soit dit de moi, une femme après le cœur de Dieu. Donc voilà, retraçons l'histoire de David et inspirons-nous de sa vie. J'étais touchée tout à l'heure par ces beaux chants qu'on chantait, parce que en fait, David, et ça m'est venu maintenant, donc je le dis maintenant, ce n'était pas dans mes textes, mais David, bien avant d'avoir une Bible en main, nous on a une Bible en main et on sait plein de choses sur le cœur de Dieu, mais David, il avait le Torah, ok, mais en fait c'était peu de choses comparé à tout ce que nous avons aujourd'hui pour connaître la nature de Dieu. Et ça me touche à quel point cet homme, il savait tellement de choses sur Dieu, mais j'imagine qu'il a découvert comme ça, bien sûr en lisant les textes qu'il avait déjà, mais en passant du temps avec son Dieu, en étant en contact, en étant avec une relation intime avec son Dieu. C'est impressionnant, hein? Et nous, on a toute cette Bible en fait pour connaître Dieu, et combien plus nous savons sur David que David, hein, sur la nature de Dieu. D'ailleurs, c'est David qui nous apprend beaucoup de choses sur la nature de Dieu. Hein? Voilà. Ok, alors, je commence. Où est-ce qu'on commençait? Donc, en fait, l'histoire de David, c'est 42 chapitres. Hein? c'est la deuxième moitié de 1 Samuel. Et tout le livre de 2 Samuel, encore le tout premier chapitre ou deux de 1 Roi. Et vous savez ce que j'ai fait, et je vous encourage peut-être, si vous voulez, un peu vous remémorer cette belle histoire. Moi, j'aime beaucoup les romans audio. Donc, j'écoute beaucoup de romans audio. Et cette fois-ci, je me suis payée l'histoire de David en audio. Parce que dans la petite application que sur nos téléphones, The Bible, hein, la Bible, en fait, on peut aller dans les textes et choisir, et certaines traductions, en fait, il y a le petit micro en haut, on peut les écouter. Donc, j'ai passé des belles heures en train d'écouter cette épopée, parce qu'il faut le dire, hein, franchement, l'Odyssée qui est maintenant au cinéma n'a rien à envier. En fait, c'est énorme cette histoire, ça a tout pour être une énorme, une grande histoire. Alors, repassons un peu quelques chapitres de cette grande histoire. Peut-être, où est-ce que c'est marqué l'homme selon le cœur de Dieu? Alors, j'ai cherché et trouvé. C'est d'ailleurs Paul, quand il était à Antioche avec Barnabas, il retraçait l'histoire du peuple d'Israël et c'est là qu'il a parlé de David, un homme selon le cœur de Dieu. Il dit, Dieu fit lever pour eux David comme roi. Il déclara, j'ai trouvé David. Cet homme répond au désir de mon cœur, il accomplira tout ce que je veux. Oh là là, de nouveau tellement bouleversant, n'est-ce pas? Vous imaginez Dieu qui dit, j'ai choisi, j'ai trouvé David, hein? J'ai trouvé David, cet homme répond au désir de mon cœur, il accomplira tout ce que je veux. Ouais. Donc, inspirons-nous de l'histoire de David pour que lui ressembler, hein, de dire, c'est aussi ce que je désire, mon Dieu. Je désire que tu me trouves et que je réponds au désir de ton cœur et que j'accomplis, Seigneur, ce que tu veux. Alors, donc, dans 2 Samuel, on trouve l'histoire... On dirait aujourd'hui l'histoire d'un vrai homme, un peu. Avec la psychologie moderne, aujourd'hui, on a quelques définitions de qu'est-ce que c'est la vraie masculinité. Hein? Et en fait, David, il coche toutes les cases. Hein? Parce qu'à la fois, c'est cet homme, un grand guerrier devant l'Éternel. Hein? Et à la fois, on a combien de psaumes on a de David? Donc j'ai googlé ça ce matin, je ne le savais pas par cœur, on a 73 et peut-être même 75, selon si, qu'est-ce qu'on compte. Vous imaginez, en fait c'est un peu David à cœur ouvert, hein? Parce que dans ses psaumes, il livre son âme en fait. Il nous parle de ses doutes, il nous parle de toutes ses émotions, il parle de sa foi en Dieu, mais il parle aussi des fois de dire ben « Dieu, où est-ce que tu es? Est-ce que tu dors ou bien hein? ?» Il y a un peu tout, hein? Il y a toute la gamme de toutes les émotions. Donc David, c'est un homme, comme on les aime aujourd'hui, c'est à la fois voilà, quelqu'un qui va à la bataille, qui sait être fort quand il faut, et à la fois un homme ben, qui est vulnérable, qui montre ses émotions, qui parle de son cœur, qui voilà. C'est beau ça me plaît. Oui. Donc, une vraie épopée, puisque, n'est-ce pas, David, ça commence, vous rappelez l'histoire, bah, il est perdu dans le champ, on l'oublie en fait. Ça a commencé comme ça l'histoire de David, on l'oublie. Hein? Vous voyez encore Samuel qui, après cet échec, retraçant juste quelques chapitres avant, donc, le peuple d'Israël qui est arrivé dans la terre promise, qui a des juges qui sont responsables pour eux toutes ces années, et à un moment donné, dit la chose suivante, on veut un roi comme nos voisins, les pays voisins. Et Dieu qui a son cœur brisé, parce qu'il dit, ouais, mais moi je voulais être votre roi. Non, nous on veut un vrai roi, en chair et en os qu'on peut voir. Et ça a vraiment touché le cœur de Dieu, hein, ce peuple qui dit non, on veut nous un homme. Donc voilà ce Saül hein, qui a eu sa chance, qui a tenté sa chance. Et il y a plusieurs passages qui disent Dieu regretta. Dieu était attristé par Saül. Et puis entre en scène David. Et voilà Samuel qui est chargé d'une mission hautement dangereuse, n'est-ce pas? Parce qu'en fait, il doit aller oindre le prochain roi quand le roi actuel est encore en place. Vous imaginez? Il jouait de sa peau, hein? Là, c'était chaud, hein? Ce que Dieu lui demandait de faire. Donc voilà, il arrive avec son fiole ou bien je sais pas sa gourde ou sa peau d'animaux d'huile et qui arrive à Bethléem. Là, Dieu l'a dit, ben voilà, c'est à Bethléem, c'est là dans la famille de Jessé. Et voilà que défilent tous ces beaux gaillards, hein, les uns après les autres, 7 fils de Jessé. Et en fait, ben non, c'est toujours pas eux. Et Dieu dit cette phrase, ben moi je regarde pas l'extérieur, je regarde le cœur. Et je suis toute bouleversée par ça. Donc déjà, ce petit berger dans ses prairies a déjà su, je suis toute bouleversée, hein, déjà su toucher le cœur de Dieu. C'est beau ça, non? À quel point ce garçon, je ne sais pas quel âge il avait, est-ce que dans ma tête il a 17 ans, je ne sais pas si vous savez mieux que moi. Imaginez, un jeune gars de 17 ans qui chante déjà des louanges à son Dieu, qui compose des poèmes à son Dieu, qui comprend déjà tellement bien le cœur de Dieu dans ses collines, eh bien on l'oublie, voilà. Eh bien non, c'est lui. Parce que Dieu, il a vu le cœur de ce jeune garçon, et c'est lui qui est choisi, et c'est lui qui est oint. Et après se passent des sacrées années. Hein. Waouh, c'était costaud, hein, parce que, alors musicien dans les champs, je vous retrace juste en vitesse, hein, mais allez vous-même l'écouter cette histoire. Musicien pour Saül, il est introduit dans le palais pour remonter le moral, remonter les blouses ou casser les blouses de Saül. Et voilà qu'il vainc Goliath, et quelle magnifique bataille. Cette magnifique amitié avec Jonathan, la jalousie de Saül. Et puis, bon voilà, il doit se sauver, hein, sauver sa peau. Et voilà qu'il se trouve avec les laissés pour contre, un peu les perdus de la société, se rallie à sa cause, hein, 400 à 600 hommes. Qui sont dans le désert avec David et pendant plusieurs années, je crois, hein, il erre dans le désert. il protège son pays, mais voilà, il sauve sa peau. Hein. Il doit vraiment courir pour sa vie. Il épargne Saül deux fois. Il aurait pu le poignarder. Saül dormait, son garde du corps s'occupait, dormait aussi. Et David, à deux reprises, aurait pu prendre la vie de Saül et l'a épargné. Et puis après, voilà, la mort de Saül et Jonathan. Et David qui est oint, donc qui devient roi à l'âge de 30 ans et qui règne pour 40 ans. Et après cette belle histoire de Méphibosheth, vous rappelez cette histoire? Ou plutôt de tuer toute la lignée de Saül pour assurer sa suite, ben non, il dit, non, le fils de Jonathan, mon ami Méphibosheth, je vais lui donner une place à ma table, il peut manger tous les jours à ma table. Puis il a monté l'arche à Jérusalem, hein, en deux étapes, parce que voilà, ça s'est un peu mal passé la première fois. Et puis il y a aussi eu des histoires sombres, hein, des chapitres sombres de sa vie, en fait, où bah, il a souvent menti. Voilà, alors nous, on se rappelle bien de Bathsheba, hein, quand il a finalement couché avec la femme d'une autre et tué son mari et tout ce qui s'ensuit. Après, il a aussi compté le peuple qui était contre la loi de Dieu. Il a fait plusieurs bêtises, hein, mais je crois ce qu'on peut dire de David, c'est que David était un homme humble. Et quand Nathan ou Samuel ou revenaient lui dire, là, t'as péché, hein, Dieu, il est vraiment fâché. C'est un homme qui a su reconnaître son erreur et reconnaître, j'ai péché devant l'Éternel. Je suis désolé. Je vais payer la peine. Hein, il y a des histoires assez incroyables où il dit, d'accord, il faut qu'on paye la peine de mon péché. Voilà. Donc David, pas un grand homme, un héros, c'est un homme qui a eu des histoires sombres aussi, mais je crois ce qui le caractérise, c'est cet homme qui a su entendre et reconnaître qu'il a eu tort, reconnaître son péché, l'admettre, de dire j'ai péché devant l'Éternel, je suis désolé, je vais payer ma peine, et il s'accroche à nouveau à ce Dieu qui est plein de grâce pour lui. Alors, je vais quand même vous lire un psaume, hein, parce que voilà, c'est par les psaumes qu'on connaît un peu le cœur de David. Alors, tu as déjà cité deux psaumes ce matin, aujourd'hui, Daniel, et la semaine passée, Stéphane nous a lu aussi un beau psaume, le psaume 27. Un des psaumes que je préfère, alors, le psaume que je préfère par-dessus tout, bien sûr, c'est hein, le psaume 23. Je trouve que c'est fou parce qu'il n'y a pas d'autre psaume qui s'applique à toutes les situations de la vie. Vous ne trouvez pas que c'est un psaume qu'on peut sortir de sa poche comme ça à n'importe quelle situation de vie? Si on passe par des magnifiques moments, ça nous lève. Si on passe par un tunnel sombre, qu'est-ce que ça console? En fait, c'est un chef-d'œuvre, ce psaume 23. Mais je ne vous lis pas le psaume 23. Je vous lis aujourd'hui un autre psaume, le psaume 18. Parce que le psaume 18 est cité deux fois dans la Bible, le savez-vous? À la fin de 2 Samuel, ce psaume, il est tout un chapitre est consacré à ce psaume. C'est un psaume, Dieu adressa ses paroles au Seigneur quand celui-ci le délivra de tous ses ennemis, en particulier Saül. Alors je vous en invite juste à l'écouter parce que je vais sauter, je vais juste lire quelques versets. Hein. Il est long, mais juste quelques passages. Pour un peu sentir quel est le cœur de David, par ses psaumes. Je t'aime, Seigneur, tu es ma force. Le Seigneur est un roc. Le Seigneur est pour moi un roc, un refuge où je suis en sûreté. Mon Dieu est pour moi un rocher, où je suis à l'abri du danger, un bouclier qui me protège, une forteresse où je suis sauvé. Louange à Dieu, dès que je l'appelle au secours, je suis délivré de mes ennemis. Un peu plus loin, les liens de la mort m'en serrent, des torrents destructeurs m'effrayent, j'étais prisonnier du monde des morts. Son piège se refermait sur moi. Dans ma détresse, j'ai appelé le Seigneur. J'ai crié au secours vers mon Dieu. De son temple, il entend ma voix. Il écoute mon cri. Et dans une autre traduction, ce dernier verset est magnifique. Je vais juste le dire un peu par cœur comme ça. Dès que je crie à l'Éternel, de son grand palais, il me donne une audience privée. A private audience, c'est en anglais. Oh, je trouve ça tellement beau. Il suffit qu'on ferme les yeux, ou même on est en conversation avec quelqu'un, et dans nos têtes on dit « Au secours Dieu, là j'ai besoin de toi ». Et voilà que le Dieu de l'univers nous donne un accès à une audience privée. Vous imaginez la puissance de l'accès incroyable qu'on a. C'est vraiment bouleversant. Donc ce David, je ne vais pas lire beaucoup plus. Hein, ce psaume, il est magnifique. Je vous encourage d'aller le lire. Allez, demain matin pour votre lecture du matin. Et peut-être juste rappeler aussi ce que Stéphane disait hier, c'est David qui savait dire une chose je désire ardemment, c'est de vivre toute ma vie dans le temple de mon Dieu. Et nous, on a accès aujourd'hui à ce temple. À l'époque, David, il fallait qu'il fasse les kilomètres ou bien les mètres. Je ne sais pas où son palais se tenait. Bon, le temple n'était pas là, il y avait l'arche. Mais nous, aujourd'hui, nous sommes le temple. Donc, ces paroles de David prennent doublement sens en nous. Nous pouvons constamment être en lien avec nos dieux. Et c'est ce que David voulait absolument. Donc, on a à la fois ce David qui est guerrier et poète et qui comprenait tellement de choses sur Dieu bien avant d'avoir autant de choses que nous. Hein, voilà. Et alors, je vais peut-être le prochain slide. Donc moi, je résume et peut-être la dernière partie de ce que j'ai envie de vous apporter, c'est de dire, ben voilà comme moi je résume peut-être deux choses très fortes que j'admire chez David. David sait jouir de son Dieu et il sait collaborer avec Dieu. Je crois que ça traverse, en fait, ça se transperce hein, de ces psaumes. On sent que c'est un homme qui sait jouir de la présence de son Dieu. C'est un homme qui sait rechercher Dieu, qui sait, il sait là, avec Dieu, que je suis bien. Et qui a fait vraiment la volonté de Dieu. Hein. Dieu le dit, hein. Les choses qu'il a accomplies, c'était selon la volonté de Dieu. Alors, je nous encourage, peut-être, le prochain slide, s'il te plaît. Alors, comment nous, à notre niveau, on peut imiter David? Je trouve, jouir de Dieu, je vais vous donner deux points. Mais le premier point, je trouve, c'est par l'émerveillement. Alors, peut-être cet été, on avait beaucoup d'occasions de s'émerveiller. Hein, on avait beaucoup de belles journées, de voir la belle nature. Déjà par toute la création de Dieu, s'émerveiller et d'inclure Dieu dans ce moment d'émerveillement. Hein? Je trouve l'émerveillement, ça est une belle façon de jouir de Dieu. On peut s'émerveiller aussi de tout ce que fait Dieu, hein? Ce qu'il a fait par le passé, ce qu'il fait dans le monde, hein? On le voit à l'œuvre, ce qu'il fait dans nos vies. Et ça amène à la prochaine slide, Laurent, à la gratitude. Je trouve que c'est aussi une belle façon de jouir de la présence de Dieu. C'est à la fois de nous émerveiller comme ces yeux d'enfant, hein, de continuer à avoir un regard d'enfant sur le monde et sur Dieu, et à la fois de faire le pas suivant et se dire « Merci Seigneur ». Alors, oh, wow, j'admire Seigneur, j'admire. Good job on the tree. Il y a un théologien qui a dit, il a vu un bel arbre, il dit « Waouh Dieu, bon travail en fait ». Et aussi de dire « Merci Seigneur, d'avoir un peu, de voir le verre à moitié plein, vous savez, d'avoir cette aptitude-là, même dans les difficultés, de dire combien de raisons j'ai pour être heureuse, hein, et de juste avoir cette capacité d'être de gratitude. Mais c'est quelque chose, c'est un sort de muscle hein, que je crois qu'il faut qu'on travaille. Hein. Ça ne vient pas tout seul, en fait, de dire la gratitude. J'ai envie que ça soit quelque chose qui me personnifie et quelle belle façon d'être en lien avec Dieu et de jouir de lui. La gratitude, c'est de dire merci mon Dieu, merci pour toutes les belles choses que tu m'offres. Je veux les voir, je vais continuer à la voir. Même quand je suis dans un tunnel, je ne veux pas passer à côté de toutes les belles choses que tu me donnes. et collaborer avec Dieu. Le prochain slide, s'il te plaît, Laurent. Alors, agir comme lui, passer du temps avec quelqu'un, au bout d'un moment, on commence à tellement connaître la personne. Je ne sais pas si vous réalisez que des fois, dans certains couples, on commence à voir les mêmes expressions ou la même façon de rire ou par mimétisme, en fait, on commence à ressembler aux personnes avec qui on est très proche. Pourquoi tu rigoles? Et en fait, une façon de collaborer avec Dieu, c'est de cette jouissance de Dieu. On connaît tellement Dieu, on connaît tellement son cœur, on est tellement semblable à lui qu'on commence à agir comme lui. On commence à le ressembler. On commence à être des petits Jésus. En fait, c'est ça qu'on est appelé à être. Hein. C'est des témoins ou des expressions de la nature divine. Agir comme Dieu. Est-ce que ça m'arrive dans mes journées d'avoir cette attitude divine, de dire que fera Dieu à ma place, que ferait Dieu dans cette situation, comment agir comme mon Dieu. Et puis, le quatrième, oser. Hein? David l'a fait. Hein? Hein? On peut voir dans la vie de David à quel point il a osé. Bah voilà. Il a dit, Saül, non merci, ton armure, non. Je vais aller léger. Je vais aller léger confronter ce Goliath qui ose remettre en cause le Dieu d'Israël. Et je vais aller l'affronter avec ses 5 cailloux. Et je vais aller, oser. Et voilà, dans nos quotidiens, je crois que Dieu nous appelle aussi à oser, hein, oser des choses compliquées, à oser sortir de notre zone de confort. Et voilà. J'aime imaginer que Dieu nous encourage à ça, de dire oui, collabore avec moi, ça va te coûter quelque chose de collaborer avec moi. Ça va pas être facile, mais on compte sur Dieu, on compte sur ses forces. Alors, voilà, moi j'arrive à la fin de ce que j'avais, voilà, on peut parler longuement de David, mais ce que j'avais envie qu'on fasse quand même, c'est un petit parti pratique, de dire peut-être deux à deux, et peut-être pas les couples, hein, on essaie de, voilà, d'être juste, non ça c'est autre chose, Laurent, mais de rester sur ce slide, et peut-être discuter de ce que vous voulez. On a 10 minutes, 15 minutes, je verrai si les discussions sont animées ou pas, on a le temps. Qu'est-ce qui vous touche dans la vie de David? Et en quoi est-ce que, là où est-ce que vous sentez, oui, peut-être choisir juste un point, hein. 4 c'est un peu trop, mais dans cette semaine qui vient, quel peut être un point sur lequel j'ai envie que Dieu me change mon cœur, pour que la vie de David puisse m'imprégner, et que sa foi dans son Dieu puisse aussi m'animer et m'inspirer pour mon quotidien, pour lundi déjà, on commence avec lundi, hein, lesquels de ces points j'aimerais relever pour que Dieu me rend plus semblable de lui et aussi d'imiter aussi la belle vie de David. Alors, 10 minutes à deux personnes, hein, et je reviendrai à la fin.